La barge russe, tous les jours, maintenant. Hey, hey, well, jolly to your bag, and a bag of love and all that, yes, and I thank you very, 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 very much. Sur JetFM.
Barge russe 10:34 aujourd'hui. Plus que des vents de considération.
Professeur Schmidli, oui, c'est moi, oui. Grâce à vos émissions, cher Johnny Tiefbeck, j'ai été jusqu'à remettre en cause Nietzsche, comme on a pu le voir intensément dans les dernières chroniques dans lesquelles vous m'avez invité. J'ai réussi à remettre en cause Nietzsche et son surhomme. Surhomme qu'on a pu voir l'homme parfait, qu'on a pu voir dans l'islam. Vous avez trouvé, n'est-ce pas, avec Henri Corbin, dans l'islam en Iran. Dans un roman de SF dont vous allez nous transmettre vos découvertes, juste après moi. Donc j'ai été jusqu'à remettre en cause, n'est-ce pas, Nietzsche et son surhomme. Un terme que le temps tâche, malheureusement. Surhomme est devenu maintenant le mec qui ne se prend pas pour de la daube, pour parler vulgairement et familièrement et contemporainement et dans le, pour que tout le monde comprenne, n'est-ce pas. Le temps tâche. Oui, n'est-ce pas ? Or, le surhomme. Or, le surhomme de Nietzsche, qui est dans chacun de nous, comme j'ai pu le faire remarquer dans les barges précédentes, que l'occidentalisation et sa matérialisation nous ont fait oublier, s'avère être ce que vous appelez un intercalaire, cher Johnny Tube. Là, peut-être, est une erreur de Friedrich Nietzsche. Mais nous allons voir ça tout de suite. C'est-à-dire une vérité apte à être déplacée objectivement hors de notre subjectivité. C'est-à-dire que là, le surhomme est en nous. Nous sommes... Il y a un surhomme en nous. Encore faut-il le trouver. Ça appartient à la subjectivité. Et le fait du surhomme, de la philosophie en général, mais de Nietzsche dans ce cas présent, permet, malheureusement, de rendre objectif, de rendre dans un intercalaire cette référence de surhomme, alors qu'elle est en nous. Nous sommes des hommes, et aussi des surhommes, et aussi, bien sûr, des sous-hommes. Mais ça, je crois que vous allez me raviter dans la chronique suivante. Oui, ça, j'adore. Oui, pour les sous-hommes, oui. Nous verrons ça en barge russe 10:35. C'est pas... Car le surhomme, la surentité, est en nous, comme je vous dis. Friedrich Nietzsche l'avait trouvé, s'est égaré en voulant le partager. Oui. Car une nouvelle fois, personne, cher Johnny Tiefbeck, n'est prêt, ou très peu, ça dit, très peu le son, à l'écouter et à s'écouter, bien sûr. Il était alors, Friedrich Nietzsche, sur l'arête. Arrête, segment, de ce grand monolithe de la logique. C'est le monolithe qu'on peut apercevoir dans Terminal l'Odyssée de l'espace. Ou encore, vous l'avez fait remarquer, le monolithe de The Who's Next. Who's Next, de 71, je crois, 72, de l'album assez bon des Who. Donc, il est sur l'arête de ce monolithe. Et il maîtrisera sa position. Il maintiendra un équilibre plusieurs années. Et les vents de la raison auront raison. Malheureusement, heureusement, je ne sais pas. C'est comme ça. Auront raison de lui. C'est là un fait non historique que vous allez pouvoir nous expliquer demain, parce que vous m'avez parlé tout à l'heure.
Oui, exactement.
Oui, Johnny Defec. Oui, exactement.
Oui, d'ailleurs, super, professeur Schmidby, je vous remercie beaucoup de cette intervention. Là, d'ailleurs, dans le roman Plus qu'humain de Theodore Sturgeon, de 1953, qui est sorti en 1953, un regroupement de pouvoirs télékinésiques, de transferts, de téléportation, mène, de par un amalgame synchronique, et non dans la solitude, en fait, c'est un groupement de jeunes qui ont des pouvoirs et qui se retrouvent. Et là, on voit que depuis leur handicap, ils vont justement, ils rentrent dans leur intérieur et le surhomme qui est en eux. Et à partir de là, ils arrivent à développer des pouvoirs. Sauf que nous tous sommes capables de ces pouvoirs. Alors, pas comme c'est décrit dans le livre, pas forcément de télékinésie, de pouvoir se disparaître dans le... Non, c'est pas un truc de SF qu'on est. Mais on en a des super pouvoirs. C'est ça, j'en suis certain. Et ça, justement, ça a un rapport avec la synchronicité. Le fait que ça, c'est Jung. Quand quelque chose arrive, c'est arrive à un moment prévu. Je vous ai donné l'exemple toujours, ça me revient toujours cet exemple des livres. Je suis en train de préparer une barge russe et bon, bah, je suis dans la thématique quoi. Et je cherche des livres toujours. Et là, je tombe sur un livre que je ne connais, je connais pas l'auteur, je connais pas le titre, je connais pas du tout. Je cherche autre chose. Et là, j'ai le quatrième de couverture et bam, ça tombe exactement dans mes réflexions, dans la chronique, dans le temps qui court, quoi. Donc ça, c'est de la synchronicité. Et donc là, donc l'amalgame synchronique, ils font ce tout à un amalgame synchronique et une surhumanité qui est nommée Homo Gestalt. L'unité sociale, l'unité individuelle est dépassée dans cet ouvrage et s'adresse au rôle de l'humanité sur Terre. C'est ça qui est assez fort. Il faut pas s'arrêter à juste ça. Non, non, il faut aller voir plus loin. C'est pas juste on voit que la division ne mène à rien, mais le regroupement, c'est super. Mais au-delà de ça, le regroupement, où est-ce que ça t'emmène aussi ta subjectivité à un état, mais au-dessus, quoi. Ça permet de te transcender, de te dépasser. Et donc Nietzsche est en plein dedans aussi. Bon, je te dis, je l'ai emprunté. Mais c'est pareil, j'ai découvert ce titre dans un manga. Je ne sais plus le titre, qui était assez bien. Ah ouais, ça me faisait vraiment penser à Walking Dead. Comment il s'appelait ce truc? Oh, je ne sais plus. Le manga était super. Et d'ailleurs, c'était écrit dans le quatrième de couverture, mais ça, je l'ai vu à la fin. Que c'était pour ceux qui aiment Walking Dead, vous allez aimer ce manga. Donc pour ceux les mangas fans geeks, ils vont savoir de quoi je parle, parce qu'il est connu ce manga. Donc plus qu'humain, l'Homo Gestalt, le surhomme, l'homme parfait, est un état atteint par des dons, des pouvoirs, depuis des handicaps, des défaillances, et tout ceci mène à un dépassement de soi. Des traumatismes de profondeur assez marquée mènent à une chose identique. Mais c'est ce que je me disais en vélo ce matin. Je me disais que vraiment on était conditionné. Conditionné. Je pensais au sexe. Et je me disais, mais dans notre société, le sexe, c'est vraiment conditionné. J'ai lu plusieurs fois là récemment. Dans les journaux, dans le monde hein, aussi, mais il est important de faire l'amour. Or, combien de personnes ne font pas vivre seules? Il y en a pléthore. L'amour n'est pas. C'est un conditionnement. On est conditionné, c'est écrit, donc c'est vrai. Donc ça rentre dans notre tête inconsciemment, et à partir de là, ah oui, le sexe, il faut le faire. Et c'est bien. Et à aucun moment tu penses que tu peux ne pas faire de sexe et que ce n'est pas forcément bien. Ce n'est pas forcément pas bien, mais ce n'est pas forcément bien. Mais ça c'est hors. Donc c'est du conditionnement. C'est un conditionnement occidental. C'est l'occidentalisation. Merci Hollywood. Merci beaucoup. Oui, je suis d'accord avec vous.
Johnny Depp, oui, complètement. Moi-même, je vis seul depuis très très longtemps, vous savez. Je reviens. Nietzsche, revenons à Nietzsche, son surhomme, le divin qui est en chacun de nous. Oui. Eh bien. Thank you. nous avons pu écouter. Qu'avons-nous écouté, Johnny Depp? On a écouté Touchstone, mais en lecture 45 tours, par Stan Getz. Oui, très bon, très bon. Les considérations, donc, de Friedrich Nietzsche. D'où le titre de votre barre, je le répète, qui est « Plus que des vents de considération ». Plus qu'humain, oui, Sturgeon, et des vents de considération. Bon, les considérations de Friedrich Nietzsche se détachent en deux parties. La première considération inactuelle, qui est la plus commune, en 1 et 2, voilà, je l'ai apporté. J'en ai parlé d'ailleurs récemment. David Strauss, apôtre et écrivain, c'est la première considération, que vous m'avez laissé d'ailleurs présenter, comme je disais, Barjolus 10-31, je me rappelle très bien, qui traitait alors de l'amour, n'est-ce pas? Oui. Il datait de 1873. C'est vraiment pas les débuts de Nietzsche, mais c'était sa première période, disons. Ensuite, dans ce même ouvrage, dans cette considération inactuelle, cette deuxième partie comporte de l'étude et des inconvénients des études historiques de la vie, pour la vie, de 1974. Laquelle partie il m'a plu de faire intervenir à cette même barge russe, la barge russe 1031, vous rappelez-vous. Et j'en reparlerai dans la prochaine que nous allons faire, à 10:35, demain, normalement, encore. Je vous remercie d'ailleurs beaucoup de faire cette émission en deux parties car c'est très très important. Et ensuite, la deuxième partie des considérations sont les considérations intempestives. Oui, c'est un recueil que j'ai depuis très longtemps en bilingue. J'en ai déjà parlé, oui. Ça m'a beaucoup porté. Oui. C'est très 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 bon. Oui, très très bon. Donc, c'est la première partie que nous allons étudier maintenant. Je tiens à étudier, très importante, précisément et uniquement cette fois aujourd'hui, vous m'arrêterez pour la deuxième partie, qui est Schopenhauer, éducateur, dans laquelle se compte, vous allez pouvoir déchiffrer avec moi, l'adresse de la philosophie dont Friedrich Nietzsche use. La deuxième partie, traitant de Richard Wagner à Beyrouth. Mais je ne serai pas traité ici, ni demain, mais peut-être ultérieurement, si vous me permettez un jour. Oui, ben j'aimerais bien qu'on fasse un truc sur Wagner. Ouais. Oui, mais ouais, peut-être, je pense à Helmut Schwartz qui serait intéressé pour faire un grand, grand. Oh oui, oui, ça me plairait, oui. Oui, beaucoup merci. Oui. Oui. Ouais, nous allons commencer maintenant, si vous le permettez. On a en horreur tout. Alors je cite Friedrich Nietzsche, considération intempestive, première partie, donc comme je disais, Schopenhauer, éducateur. Car vous savez, Schopenhauer était pour Friedrich Nietzsche, pas son mentor, parce qu'il ne se connaissait peut-être pas très bien personnellement, mais il en parle beaucoup car il a beaucoup pris de Schopenhauer. Mais Schopenhauer était plutôt dans la négation et Nietzsche dans la positive. Oui. Oui, c'est très optimiste. Alors qu'il est pessimiste, je sais pas. On a en horreur donc toute espèce de culture qui rend l'homme solitaire en lui proposant des fins supérieures à l'argent et au profit. Parce qu'une telle culture exige beaucoup de temps. Mais pas que, c'est sûr. Si la personne se retire en horreur, espèce de, qui rend l'homme solitaire, en lui proposant, si il se recule et qu'il pour gagner beaucoup de sous, on va être. La jalousie. Personnellement, je ne connais pas la jalousie. Non. Et je ne sais pas ce que c'est. Mais il y a beaucoup de personnes qui le sont. Je sais. J'ai été victime. Oui. Je ne sais pas. Non, je m'en moque. Non, ça m'est égal, disons. Mais je sais que moi, j'ai vraiment payé de la jalousie d'autres personnes. Oui. Mais passé sous le nez plusieurs choses. Oui. À cause de la jalousie de. De tierces personnes. Oui, je sais, c'est horrible. Oui. Donc, si je continue avec Friedrich Nietzsche, on estime au contraire une culture rapide et qui permette d'apprendre vite et à gagner de l'argent, une culture assez approfondie, cependant, pour permettre d'en gagner beaucoup. Voilà où nous en sommes. Et on veut en gagner beaucoup. On veut de la culture pour gagner beaucoup d'argent très vite. On accorde à l'homme que juste ce qu'il faut de culture dans l'intérêt du profit général et du commerce mondial. Mais ce minimum, n'est-ce pas, on l'exige de lui. Bref, l'homme a nécessairement droit au bonheur terrestre. Oui. C'est pourquoi il faut de la culture, mais pour cette raison seulement.
Oui, pour le bonheur terrestre, donc pour être heureux, pour des sous-sous, n'est-ce pas ? Il faut juste un peu de culture, mais pas au-delà. Non, ça ne sert à rien.
Il en a perdu très très bon, Friedrich Nietzsche. Très très bon. Nous sommes en 1874. Donc à présent, j'ai pris différents passages, et je vais commencer par la fin, et revenir en arrière des notes que j'ai prises. Vous allez voir, ça se suit, c'est magnifique. Donc, on préfère ne plus rien objecter et se détourner de la philosophie. On a la force matérielle à présent. Ici donc, occidentalisation. Plus besoin de philosopher. On a une friteuse. Nous avons une friteuse. Oui. Oui. Possible d'avoir une friteuse. Ça ne sert plus à rien de réfléchir. Comment faire manger des patates? Oui. On fait des frites. Oui. Oui, c'est évident. N'est-ce pas?
Ah oui?
Oui, ben bien sûr. Non, je dis vague. Je dis vague. Non, c'est un exemple. Mais la facilité étant là. Et la Grèce étant, on grossit. Mais une fois d'acné, j'en parle très très souvent, je sais plus, dans ses correspondances, de l'alimentation. Oui. Oui, il fait très attention à ça. Il n'a pas vécu pour cela plus longtemps, mais. C'est marquant. Déjà, au 19e siècle, il parlait de l'alimentation. C'est fou. Ensuite, c'est-à-dire à placer. Voilà, pour continuer. Il est inadmissible que l'État moderne institue une anti-philosophie pour se faire légitimer par elle, car il aura la philosophie contre lui. Après comme avant, et même plus qu'auparavant.
Ouais.
Mais sauf que la philosophie a pas totalement disparu, non, c'est pas possible. Mais c'est pris un coup dans l'aile quand même. Hein. Les gens, mais la philosophie, ce n'est pas que le prof en première, non, ni en terminale. Non, la philosophie, c'est un rythme de vie. La philosophie, c'est une façon de penser. Ce n'est pas juste les cours, ce n'est pas juste l'école, non, ce n'est pas juste les livres, non. C'est peut-être ça aussi l'erreur que beaucoup d'entre nous font. C'est le conditionnement, n'est-ce pas ? Ça ne sert à rien que je fasse de la philosophie, je vais en faire en première. Oui, ou j'en ai fait en terminale. Ça ne sert à rien. Non, c'est terminale, c'est fini. Bon, je sais plus. Non, terminale, j'en ai fait en terminale. Oui, donc la philo, j'arrête. J'en ai fait un an, ça me suffit. Oui, oui c'est. Ou en première. Oh, je ne sais plus. Non, mais c'est en première, parce qu'il y a. Oh, je sais plus. Si ? Non ? Non ? Si ? Je m'en fous. À un moment, je sais qu'on arrête la philosophie. On commence la philosophie, on arrête la philosophie. Mais ce n'est pas la philosophie, on n'a pas juste 2, 3 ans, 1 an à en faire. C'est toute la vie. C'est une façon de vivre. Et c'est ça. C'est le conditionnement, l'État. L'État, Nietzsche le dit très bien. En 1874. Oui, monsieur, oui. C'est insensé. De mauvais philosophes, mais une fois admis le ridicule de cette urgence, de mauvais philosophes, et qui ne l'admettrait ?
Ben, je pense que les gens s'en foutent, hein. Qu'on l'admette ou pas. La philosophie, c'est pas pour moi. Je parle comme beaucoup de personnes peuvent.
Oui, j'en connais énormément, c'est pour ça que je me permets de le dire, oui, bien sûr. Dans quelle mesure sont-ils nuisibles, ceux qui font de la philosophie ? Pour le dire brièvement, c'est parce qu'ils ridiculisent la philosophie. Oui, bah oui, bien sûr. Tant que subsistera ce succès d'années de pensée reconnu par l'État, l'action grandiose de la vraie philosophie sera ruinée au moins entravée du simple fait que cette malédiction du ridicule que se sont attirés les représentants de cette grande cause s'attachera aussi à la cause elle-même. Et plus loin, laissez plutôt croître les philosophes à l'état sauvage, s'il le faut, refusez-leur toute perspective de fonction et d'enrégimentation, donc de conditionnement, dans les professions civiles, n'essayez pas de les amadouer en leur offrant des traitements, mieux encore, persécutez-les, montrez-leur de la défaveur et vous verrez des miracles. Exactement. Et là, le philosophe va rentrer, pas forcément, il n'aura pas forcément besoin d'un traumatisme, ou peut-être que le traumatisme va accentuer, va amplifier. Oui, c'est ça. Et c'est ce qu'il y a de mieux à faire plutôt que de laisser patronner publiquement par l'État une philosophie quelle qu'elle soit. C'est magnifique. Je trouve ça fantastique. Je reviens quelques pages en arrière. Alors là, Alors, et si ce soupir de soulagement... était justement le but que se propose l'État. Et si l'éducation philosophique consistait à vous détourner de la philosophie? C'est exactement ce que je viens de vous dire. Je ne sais même pas si j'avais compris lorsque je l'avais lu. Sûrement que si, inconsciemment. Posez-vous la question. Mais s'il en était ainsi, on n'aurait qu'une chose à craindre. Que la jeunesse finisse un beau jour par découvrir l'abus qui est fait de la philosophie. Par cette éducation de la philosophie, je t'enlève toute philosophie. Je t'enlève la possibilité d'être un surhomme. Est-ce que la jeunesse fera quelque chose contre ça? Est-ce qu'elle s'en rend compte? Est-ce que les professeurs s'en rendent compte? Surtout pas les professeurs de philo. Non, je ne pense pas. Encore sur du poète, peut-être, bien, mais professeur de philo. Du steak dans l'assiette. Le but serait-il justement peut-être d'en empêcher la naissance? Le sens aurait-il été retourné en un contresens? Alors, dans ce cas, malheur à tout ce conglomérat d'astuces politiques et professionnelles qui joue sur l'humanité. Ouais, donc la philosophie, oh non, c'est trop compliqué pour moi, il y a d'autres trucs à faire. Oui, certes, je ne dis pas le contraire. Non, mais par contre, la philosophie est là, autant s'en servir, hein, parce que ce n'est pas contre vous que la philosophie, non, c'est pour vous. Elle est en vous, la philosophie, oui, c'est évident. C'est en fonction de leurs actes que les hommes naissent stupides, muets, sourds et difformes. Je crois que c'est Goethe. Non, c'est un proverbe hindou. Je vous demande pardon. C'est en fonction de leurs actes que les hommes naissent stupides, muets, sourds et difformes. C'est-à-dire que c'est transgénérationnel. C'est, admettons le père ou la mère fait des beaucoup d'âneries dans sa vie, il va peut-être mettre un enfant au monde qui sera difforme. Ce sera une sorte de réponse. Peut-être, non mais je dis ça, c'est une interprétation, comme il peut y en avoir d'autres, comme certains peuvent me dire, non mais c'est comme ça, ouais, bah oui, mais, non ça n'existe pas selon moi. C'est en fonction de leurs actes que les hommes naissent stupides, muets, sourds ou difformes. Oui, si les parents font des âneries toute leur vie, n'est-ce pas, l'enfant a de grandes chances d'éduquer son enfant qui devienne stupide. Bon, ce sont des réponses du côté invisible. De mon côté, j'en suis persuadé. Je ne plains pas. Comme je disais hier, je ne prends pas en pitié les gens à qui ça arrive. Non. Je ne dirais pas bien fait pour eux, car j'ignore tous d'eux. Mais il y a une réponse, il y a une cause et il y a une conséquence. Et tout ça se joue du côté invisible. Là, c'est peut-être difficile à entendre, mais changer de radio. Je suis désolé, je ne dis pas. Ouais, c'est mon émission quand même. Oui, mais tant pis. Et enfin, en quoi au monde l'histoire de la philosophie concerne-t-elle nos jeunes gens? Veut-on les décourager d'avoir une opinion personnelle en leur montrant l'amas confus de toutes les opinions? Veut-on leur enseigner à se joindre à un concert de louanges en l'honneur des belles choses que nous avons accomplies? Veut-on qu'ils apprennent à haïr ou à mépriser la philosophie? Eh bien, la réponse de Nietzsche, quelques pages plus tôt, comme je vous disais, et regardez de plus près, dit-il, trois pages plus tôt, cette liberté dont l'État, comme je l'ai dit, accorde le bienfait à quelques-uns au nom de la philosophie, n'est pas même une liberté. C'est une fonction qui nourrit son homme. Le patronage à accorder à la philosophie, n'est-ce pas, consiste donc simplement en ce que de nos jours l'État permet au moins à quelques-uns de vivre de leur philosophie et d'en tirer leur gagne-pain. Tandis que les vieux sages de la Grèce, loin d'être subventionnés par l'État, étaient tout au plus honorés parfois comme Zénon d'un laurier d'or et d'un tombeau en céramique. Mais est-ce servir la vérité que d'indiquer le moyen d'en tirer sa substance, sa subsistance? Je ne saurais le dire en général, car tout dépend ici de la nature et de la valeur de l'homme à qui l'on montre ce chemin.
Je russe tous les jours, actualité, philosophie, et je t'emmerde. Against